Et nous reprenons tout de suite avec un exposé de Vincent Soulages, qui est doctorant au GSRL, quand les partis socialistes parlaient théologie. Florence Hegel interviendra dans son sillage pour la discussion. Voilà, je cède immédiatement la parole à Vincent.
La fin des années 1960 voit la rupture définitive du lien traditionnel qui attachait l'électorat catholique à la droite. Ce déplacement a des racines anciennes, maintenant bien connues, notamment grâce au livre « À la gauche du Christ » co-dirigé par Denis Pelletier, que tout le monde connaît ici. Ce déplacement devient massif dans les années 1960 au point que la hiérarchie catholique doit, en 1971 puis 1972, reconnaître explicitement la possibilité pour un catholique de choisir l'option socialiste. Mais à cette date, une dynamique nouvelle s'est enclenchée, ce qu'on appelle le cycle d'Épinay, lequel cycle est marqué par l'ouverture, par l'aventure du programme commun, l'unification parallèle des socialistes, deux mouvements qui se font au profit du Parti socialiste, désormais dirigé par François Mitterrand, et qui vont permettre sa victoire en 1981. Une des nouveautés de ce cycle d'Épinay est l'ouverture aux chrétiens. Ça fait l'objet d'un chapitre dans ce livre « Le Parti socialiste d'Épinay à l'Élysée » qui a travaillé sur ce cycle, puisque pendant une décennie, les partis de gauche non seulement vont s'ouvrir aux chrétiens, mais vont aussi aller jusqu'à se livrer une véritable concurrence pour attirer un genre nouveau de militants que sont les chrétiens de gauche, qui sont désormais disponibles pour un engagement à gauche. Et ces partis, que ce soit le PS certes, mais aussi le PSU et même un peu le Parti communiste, ont engagé des initiatives originales pour aborder explicitement la question religieuse. Si l'ampleur de ces initiatives reste limitée par rapport aux demandes de certains, elle n'en marque pas moins une rupture avec la tradition laïque de la gauche française. Ce comportement n'est pas nouveau pour le Parti communiste français. Il est plus original de la part du PSU et, osons-le, il est même franchement révolutionnaire quand c'est le Parti socialiste qui s'y essaie. C'est bien la raison du titre, du pluriel dans le titre de l'intervention, les partis socialistes. Observez comment ces partis de gauche ont intégré la question religieuse dans leur compétition politique au long des années 1970. Et je vous propose d'en distinguer trois phases autour de deux années charnières que sont les années 1974 et 1978. Mais d'abord, je voudrais juste faire un petit rappel sur la recomposition qui se produit dans les années qui suivent immédiatement mai 68. Cette recomposition, elle se fait d'abord avec les militants chrétiens de l'avant 68, entre guillemets. Ils se sont rapprochés de la gauche pendant la décennie 1960, mais ils ont privilégié des formes alternatives de participation politique. On les a retrouvés dans les clubs, les syndicats, les associations, très peu dans les partis, avec une exception, le Parti socialiste unifié, qu'ils ont littéralement porté sur les fonts baptismaux. À l'image de la CFDT, on peut considérer ces militants comme des militants déconfessionnalisés ou d'origine chrétienne, pour reprendre l'expression popularisée par la revue Esprit. Ces militants puisent dans leur socialisation et dans leur foi les motivations de leur engagement à gauche, certes, mais ils n'y font que très rarement une référence explicite. Et le lien entre conviction religieuse et engagement politique se fait au niveau individuel. Le déplacement politico-religieux prend après mai 68 une ampleur nouvelle. Alors certes, on a un mouvement global de politisation des engagements, mais dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui, il a trois ressorts spécifiques. Le premier, c'est que désormais, on a des groupes, et non plus des individus, qui font le choix de l'option socialiste. Et donc les partis politiques gagnent des interlocuteurs identifiés. Le deuxième ressort, c'est l'ouverture explicite des partis de gauche à ces nouveaux militants. J'en parlerai juste après. Et le troisième ressort, c'est la radicalisation de certains militants qui cèdent au moins partiellement à la tentation gauchiste. Ils cherchent à manifester explicitement la double dimension de leur protestation socio-religieuse au risque d'une sorte d'intégralisme de gauche. J'ai été jusqu'à parler d'un gauchisme chrétien, même si l'expression mériterait d'être expliquée, mais ce n'est pas le lieu ici. Ce qui m'intéresse, c'est que cette pression du gauchisme chrétien pousse en réaction les partis de gauche à s'aventurer sur le terrain religieux pour séduire ces nouveaux militants, selon des modalités qui se développent grossièrement en trois phases successives. La première phase est entre 1971 et 1974, marquée par une série d'appels de la part essentiellement du Parti socialiste. Cette phase débute dès le congrès d'Épinay, quand ce qui reste de la SFIO s'élargit à de nouveaux militants, parmi lesquels on trouve un nombre respectable de chrétiens de gauche. Ces chrétiens, on les trouve à la CIR, Convention des institutions républicaines, le parti à l'époque dirigé par François Mitterrand, et aussi dans une petite motion, dite motion K, qui est portée à la fois par Robert Buron, ancien ministre MRP, et par des militants du mouvement Vie Nouvelle. Ces militants n'ont pas peur d'assumer en tribune leur, je cite, « milieu d'origine de catholiques de gauche », et une fois élus, François Mitterrand prend la peine de leur répondre explicitement. Je vous ai mis la citation, et c'est du François Mitterrand, ça reste relativement confus, et en même temps, c'est très clair, on répond aux catholiques, et cette réponse explicite, qui est une nouveauté, annonce la multiplication de gestes timides, mais réels, dans la direction de ces catholiques de gauche. Un des signes manifestes de l'intérêt qu'on leur porte est que des responsables sont désignés pour assumer un dialogue. Au Parti socialiste, on désigne d'abord Roger Fajardi, franc-maçon notoire, on ne désigne pas n'importe qui. Il est progressivement secondé puis supplanté par Marie-Thérèse Eckhem, militante féministe, mais qui renoue avec les réseaux catholiques de sa jeunesse. Au Parti communiste, parallèlement, c'est l'intellectuel Antoine Casanova qui, pendant très longtemps, va assumer ce rôle. Les dirigeants nationaux des partis de gauche vont à plusieurs occasions lancer aux chrétiens des appels explicites. Mitterrand le fait à plusieurs reprises dans ses discours ou interventions médiatiques. Et l'exemple le plus connu, ça reste quand même Georges Marchais qui lance à Lyon en 1976 l'adresse aux chrétiens. Donc, une réédition de la main tendue. Le Parti communiste est quand même beaucoup plus discret que Mitterrand en la matière, puisque l'initiative la plus originale à cette période est à mettre au compte du Parti socialiste en 1972, qui organise des portes ouvertes sur le programme commun. La première est destinée aux femmes, la deuxième porte explicitement sur le thème « les chrétiens et le socialisme ». À cette occasion, on fait dialoguer plusieurs militants chrétiens adhérents du Parti socialiste avec des responsables catholiques et protestants. On voit apparaître comme ça timidement quelques protestants dans cette histoire. Et en concluant cette rencontre, Mitterrand affirme que les projets peuvent se recouvrir. Le même but a inspiré les fondateurs du christianisme et du socialisme. Et il finit en souhaitant la rencontre des courants chrétiens et socialistes. La presse interne relaie tous ces signaux et même y participe. En 1973, parmi les plus de 500 candidats du Parti socialiste, on choisit de présenter Jean Baboulène qui se présente à Roanne, mais qui est surtout catholique identifié et qui est présenté comme pratiquant et laïque. Durant cette phase, le Parti socialiste unifié, le PSU, semble silencieux. La réalité est que sa collaboration avec les réseaux chrétiens est très avancée sur le terrain, sans qu'il ait besoin de mobiliser la question religieuse. Ainsi, plusieurs groupes d'origine chrétienne participent activement aux classes, comités de liaison pour l'autogestion socialiste, initiative qui, en fait, prépare l'élargissement du PSU et qui sera malheureusement sans suite, puisque le PS lance en 1974 les Assises du socialisme, initiative qui va littéralement changer la donne. À cette occasion, à l'automne 1974, les partisans de Michel Rocard quittent le PSU pour rejoindre le PS. Ils sont accompagnés d'une troisième composante qui réunit les militants de la CFDT, donc de nombreux militants d'origine chrétienne, mais aussi dans cette troisième composante, on trouve les militants d'une kyrielle d'organisations très souvent issues du milieu chrétien. Alors, il serait très exagéré de considérer les Assises comme le résultat des appels précédemment lancés. Car la question religieuse est littéralement absente des Assises du socialisme, à une exception près, une intervention de Philippe Varnier, militant inlassable de la cause des chrétiens de gauche. Mais à l'évidence, la période 71-74 a rompu une digue, puisque la période voit l'entrée en nombre de militants chrétiens au sein du PS au point d'inverser la situation avec le PSU, qui désormais se retrouve en position de challenger dans et s'ouvre alors une deuxième période qui voit une concurrence avivée entre les deux partis socialistes. Le PSU, à cette époque, s'est repositionné à l'extrême gauche et il se lance dans une véritable opération de séduction des tenants du gauchisme chrétien. Alors, en novembre 1975, le PSU reconnaît, je cite, « ouvrir le débat » avec un long dossier sur « Église et lutte de classe » qui est publié dans la revue Tribune Socialiste. Tribune Socialiste est la revue adressée à tous les militants. Donc on n'est pas sur une revue confidentielle de réflexion interne, c'est la revue généraliste. Le débat se prolonge à l'été 1976 quand le PSU organise des états généraux pour l'autogestion socialiste. Il cherche à reprendre la main sur le terrain politique et dans le cadre de ces états généraux, un atelier porte explicitement sur les chrétiens et la lutte pour le socialisme. L'atelier a été préparé par un long dossier dans Tribune Socialiste à la fin du printemps, et il se prolonge par la publication d'un numéro spécial de PSU Documentation en janvier 1977 qui reprend l'intégralité des débats qui ont eu lieu dans cet atelier, puis en février par un dossier dans Tribune Socialiste sur le PSU et les chrétiens, et dossier qui est mis en une, puisque je vous ai présenté la une juste derrière moi. Dans toute cette histoire, entre 75, 76 et début 77, le PSU se démarque explicitement du PC comme du PCF, comme du PS comme du PCF. Il critique explicitement leur position, qui est dénoncée comme clientéliste, puisqu'ils espèrent seulement attirer les voix et les militants sans prendre en compte réellement le sujet religieux. Et à l'inverse, le PSU serait, selon ses publications, le seul à aborder de front la nécessaire lutte idéologique à mener dans et contre les églises et à réfléchir à la critique radicale de l'idéologie et des comportements religieux. On va très loin sur des questions religieuses de fond. Cette stratégie du PSU se développe parallèlement au débat qui existe à l'intérieur du christianisme de gauche, alors que les chrétiens français débattent de leur rapport à la politique autour du lancement d'une section française d'un mouvement international qui s'appelle Chrétiens pour le socialisme, qui était né dans le Chili d'Allende. Ce débat est à l'époque d'actualité, on le retrouve dans la presse sérieuse, je vous ai montré tout à l'heure le numéro de la revue Esprit, on le retrouve également dans la presse moins sérieuse, comme dans Paris Match, ou dans la revue actuelle, qui est la revue de l'underground chrétien, qui s'interroge Jésus extraterrestre ou chrétien de gauche. Bon. On a un débat qui est dans l'actualité. Et donc, face à cette concurrence, le PS se doit de réagir, en s'engageant un peu plus sur le terrain religieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. D'abord, fin 1976, le PS envoie Fajardi participer à Milan à une rencontre internationale sur socialisme et christianisme, une rencontre des Autrichiens, des Allemands et des Italiens, et où il réaffirme la possibilité pour les chrétiens de participer à la vie du Parti socialiste sans être inquiétés sur leurs convictions. Surtout, l'année suivante, à la fin de l'année 1977, Marie-Thérèse Ekem participe activement, voire peut-être suscite, un colloque sur socialisme et christianisme, qui sert de base au dossier de la Nouvelle Revue Socialiste d'avril 1978, que je vous ai présenté ici. Et ce calendrier, fin 77, début 78, ne doit rien au hasard, puisque la rencontre est organisée 6 mois après la naissance avortée de Chrétiens pour le socialisme, qui était en juin 77. On a une espèce de passage de relais entre les débats du PSU, qui aboutissent sur une naissance avortée de Chrétiens pour le socialisme, avorté en partie parce que l'affrontement PS-UPS s'est transporté à l'intérieur du milieu des chrétiens de gauche, et le PS essaye à l'automne de reprendre la main. À l'occasion de ce colloque, puis de ce numéro de la Nouvelle Revue Socialiste, le Parti Socialiste se permet d'aller très loin, avec d'abord l'interview du prêtre Jean-François VI et un article de Philippe Varnier, dans lequel ce dernier plaide explicitement pour que, je cite, « le phénomène religieux ne demeure pas tabou au sein du PS ». Le pas a certes l'air modeste, mais on peut le mesurer en relisant le témoignage du même Philippe Varnier dans une autre revue en 1976, quand il raconte qu'au moment de la préparation des assises, dont il était partie prenante puisqu'il était membre du comité d'organisation, il a proposé de consacrer à la question religieuse un des ateliers des assises. Et ses interlocuteurs ont eu un sourire gêné comme quand un débutant fait une bourde politique en face d'eux. Durant cette séquence, les deux partis, PS et PSU, sont allés loin sur le terrain religieux, aussi loin qu'ils le pouvaient, mais il est en réalité, rétrospectivement, trop tard. Car dès 1978, l'épuisement est patent dans les collectifs de chrétiens de gauche. Ceux qui étaient susceptibles de rentrer dans les partis l'ont en général déjà fait, et même pour certains, en sont repartis. Et c'est ce qui explique qu'à cette date, on entre dans une troisième phase qui se déploie en interne au Parti socialiste, entre 1979 et 1980. La question religieuse disparaît en réalité très vite au PSU, sans doute en raison de l'échec de Chrétiens pour le socialisme et du départ du PSU des militants les plus concernés. La question religieuse rebondit par contre au PS, qui compte toujours dans ses rangs des défenseurs acharnés de la laïcité. À la suite des assises dès 1974, on a vu ressortir les suspicions, voire les accusations à l'égard des militants chrétiens qui, à l'intérieur du parti, sont accueillis de manière, on va dire, variable. François Mitterrand, qui les a d'abord tenus à distance, récupère ses critiques à l'approche du congrès de Metz en 1979, alors qu'il doit affronter l'alliance de Pierre Mauroy et de Michel Rocard. C'est Pierre Mauroy, laïc incontestable, qui le premier va dénoncer le rejet dont seraient conjointement victimes Rocard et les chrétiens. Le courant rocardien s'en saisit et en fait un cheval de bataille en déposant à la motion majoritaire l'amendement Vivray, qui proclame que le PS n'a aucun dogme et ne reconnaît pas de grand prêtre. Il doit être avant tout un parti tolérant, refusant toutes les chasses qu'on voudrait donner aux chrétiens. Parallèlement, la communication de Michel Rocard, alors candidat putatif à l'élection présidentielle, prend soin de le faire intervenir dans quelques médias confessionnels. En face, Mitterrand fait du raidissement laïque un des actes de la nouvelle majorité qu'il constitue avec le CRS, courant chevènementiste. Ce dernier perd à cette occasion une bonne partie des militants chrétiens qu'il avait accueillis dans ses premières années, entre 1971 et 1974. Certes, la dimension religieuse n'est jamais mise en avant dans les ruptures, mais elle est trop évidente pour être niée. Quand c'est Christian Pierret, ancien responsable de Vie Nouvelle, ou Hugues Portelli, qui est une figure à l'époque des réseaux chrétiens de gauche, qui monte une motion dissidente, on ne peut pas considérer que la dimension religieuse est absente. Les attaques de Mitterrand et de ses fidèles se poursuivent au-delà du Congrès, puisque dans un livre d'entretien publié en 1980, le futur président nie l'existence d'un complot chrétien pour mieux attaquer ses militants, qui, je cite, sont « venus de la gauche chrétienne, constituent un courant interne et qui disposent à l'extérieur de puissants relais », et qui, bien sûr, sont séduits par Michel Rocard, qui sont donneurs de leçons, et on a comme ça plusieurs pages extrêmement virulentes à leur égard. Néanmoins, très vite, une fois acquis le retrait de Michel Rocard, la polémique s'éteint et la logique de la campagne présidentielle l'emporte sur les divergences. Cette troisième période, 79-80, est l'écho de la première période entre 71 et 74, puisque le débat porte sur l'identité de ses militants et non pas sur les questions religieuses, mais la posture globale d'ouverture a désormais laissé la place à une instrumentalisation. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu de l'originalité de cette période, de cette petite dizaine d'années pendant lesquelles la question de la relation entre les appareils politiques et les croyants d'une religion est explicitement posée à gauche, ce qui est quand même relativement exceptionnel et qui est particulièrement surprenant quand on voit le positionnement de la gauche aujourd'hui. Le PSU, encore une fois, fait preuve de son originalité en étant le seul à accepter des débats qu'on pourrait qualifier de théologiques. Le PS s'y est refusé à une exception, j'ai essayé de vous montrer, en se contentant d'une posture d'ouverture minimaliste et utilitariste qui n'a pas résisté aux querelles internes. Rétrospectivement, on peut aussi observer que les stratégies respectives du PS et du PSU s'adressaient à deux types différents de militants. L'ouverture du PS correspondait bien aux militants déconfessionnalisés ou d'origine chrétienne, tandis que l'activisme du PSU visait explicitement les tenants d'un gauchisme chrétien. D'ailleurs, ces derniers, en faisant de leur foi une identité, n'ont jamais réussi véritablement à s'intégrer dans les structures partisanes. Et globalement, quand on observe les trajectoires militantes, on doit observer que ce sont les analystes politiques qui ont primé dans les engagements partisans. La dynamique qui s'est créée autour du PS après 1969 a attiré à lui les militants chrétiens avec autant d'espoir que de résignation. Et d'ailleurs, l'ouverture manifestée par François Mitterrand et ses soutiens est autant une cause qu'une conséquence de l'arrivée de ces militants. Au final, ce parcours historique que j'ai essayé de vous retracer en presque un quart d'heure, un peu plus, j'espère vous avoir convaincu qu'en tout cas, on les révèle bien que la mouvance chrétienne ne fut qu'une des ressources par lesquelles le Parti socialiste des années 1970 a assuré ses succès militants et électoraux, ressources qui a pu être parallèle à d'autres ressources, comme l'ont pu être la galaxie laïque ou les réseaux féministes. Et d'ailleurs, on peut observer qu'une véritable similitude entre les réseaux chrétiens et les réseaux féministes dans leur situation à l'intérieur du Parti socialiste en expansion dans les années 1970, une ouverture dictée par des conditions politiques extérieures au parti, un accès limité de ces nouveaux militants aux postes de responsabilité, une tentative d'affirmation par un courant spécifique et surtout au final, le départ ou l'intégration dans la culture socialiste majoritaire. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup, cher Vincent. Donc, merci pour l'exploration de ce moment oublié qui nous rappelle que le christianisme ne nourrit pas simplement des engagements à droite, que vous avez pu montrer que même lorsqu'on est porté par une foi intégrale, cette foi intégrale peut susciter, en effet, dans le cas des années 1970, des engagements progressistes. Alors, foi intégrale en partie, car vous nous avez montré que les militants auxquels vous avez fait référence sont pour les uns, en effet, portés par une foi intégraliste et pour les autres, déjà, sur un parcours de sécularisation interne. C'est un premier moment de votre réflexion. Et puis, le second moment, c'est que la gauche elle-même a fait usage à ce moment-là, du référent religieux, à la fois dans le cadre de luttes entre partis et de luttes intra-partisanes. Lutte entre partis PS, PSU, PC, puis intra-partisanes, comme vous l'avez montré, entre les partisans d'une laïcité de fermeture ou de restriction et les partisans, au contraire, d'une ouverture au bloc chrétien, ici, ou au bloc croyant. Sachant que cette ouverture est une ouverture extrêmement plastique qui dépend pour beaucoup des moments. Des positions doctrinales qu'on croyait figées peuvent évoluer en fonction des luttes internes au Parti socialiste, ce que vous avez montré dans la dernière partie, je crois, de votre exposé. Voilà, merci pour cette intervention. Je passe maintenant la parole à Florence Hegel qui va ouvrir la discussion.